Cela fait un an que dure la guerre en Ukraine.
C'est un bien triste anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Il y a un an, l'offensive militaire de la Russie en Ukraine avait lieu le 24 février à l'aube. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale, annonçait Vladimir Poutine. Retour arrière sur une année de guerre en Ukraine avec Abel Kobios, fondateur de l'association Solidarité Adour-Pyrénées. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La guerre avait en réalité déjà commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la sécession d'une partie du Donbass sous la conduite de séparatistes financés et armés par Moscou. Vous étiez, Abel Kobios, déjà en lien avec la population ukrainienne. Quelle était la nature de ces liens ?
Je vais en Ukraine depuis 1997. Pour une mission au moment de la séparation de l'Ukraine et de l'URSS. Et au moment de ce qu'on appelait la reconstruction de l'Ukraine, quoi. Et j'étais pour une mission agricole d'aide dans la zone de Kirovograd. C'est une zone au milieu de l'Ukraine entre Kiev et Odessa, mm-hmm. Une zone agricole. Et pour regarder la production porcine et l'alimentation animale en particulier.
Donc depuis 1997, j'imagine que vous avez tissé des liens avec la population que vous avez rencontrée.
Voilà, donc un lien à l'université de Kirovograd et le CFPA de Pau-Montardon, le lycée agricole de Pau-Montardon. Nous avons reçu depuis 1999 jusqu'à 2003 deux jeunes Ukrainiens qui étaient à l'université, qui avaient une vingtaine d'années. Et qui sont venus regarder la production porcine pendant 6 mois, et faisaient des stages de 6 mois. Et nous avons gardé des liens. Ma fille, en 2012, est allée faire son stage de BTS là-bas, et nous avons entretenu des liens régulièrement avec un certain nombre de ces jeunes qui aujourd'hui ont 40 ans. Quoi.
Et oui. Est-ce qu'à l'époque, les Ukrainiens que vous côtoyiez vous disaient déjà les difficultés avec leurs voisins russes?
Non, ils n'en parlaient pas. Mais ce qu'ils voulaient, c'était vivre à l'occidental. Quoi. D'ailleurs, la majorité de ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas restés dans l'agriculture, ont trouvé des places en Angleterre, en Allemagne, ou sont restés chez eux, mais à vivre à l'occidental, disons. Mmh.
Alors, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, la guerre en Ukraine a provoqué le déplacement d'un tiers des Ukrainiens, pour moitié à l'étranger et pour l'autre au sein même du pays. Qui sont les personnes arrivées dans la région de Tarbes-Lourdes au cours de l'année 2022 ?
Mais beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Les hommes qui sont arrivés sont des hommes chargés de famille, où il y avait plus de 4 enfants, ou 4 enfants et plus.
Ils étaient dispensés en fait de combattre parce qu'ils avaient 4 enfants et plus.
Ils avaient charge de famille et ils ont considéré qu'ils pouvaient partir avec leur femme. Et donc, nous ici en relation, moi je suis en relation avec une famille qui est arrivée fin mars, début avril je pense, chez des amis qu'ils avaient puisque... ici, localement, Euralis a une usine en Ukraine et c'est la famille de la personne qui avait aidé Euralis à créer son usine en Ukraine. Sa femme est partie de Kiev parce que Kiev était bombardé. Son appartement se situait à côté de l'aéroport militaire de Kiev.
Oui.
Et donc elle est partie avec sa famille. Voilà, une zone à très grand risque. Et donc, elle est partie au tout début de la guerre. Et elle est partie par la Roumanie, et puis elle s'est retrouvée en France, elle ne savait pas où aller. Et donc, elle est arrivée ici, dans un petit village à côté de Pau, à Espoy.
Comment les réfugiés ukrainiens se sont intégrés ? Puisque j'imagine que vous êtes en lien avec toutes ces familles.
Oui. Mais ces personnes que je connais là sont très bien intégrées, quoi. J'ai ramené sa sœur au mois de juin. Moi, je suis retourné en juin porter de l'aide humanitaire. Et j'ai ramené sa sœur avec ses 3 enfants. Et elle aussi, c'est une artiste peintre. Et sa sœur, la sœur aînée, travaille en EHPAD à Lourdes, dans un EHPAD. Elle avait une qualification d'infirmière. Là, elle n'a pas l'équivalence encore d'infirmière, mais en tant qu'aide-soignante, elle s'est intégrée. Son mari, au début, a travaillé à côté de dans une usine qui fabrique du matériel agricole. Mais tant comme ils n'ont qu'une voiture, son mari a arrêté de travailler pour s'occuper de la petite dernière qui a 2 ans. Et Alicia, elle travaille à Lourdes. Quoi.
Donc ils ont trouvé du travail et les enfants ont été scolarisés quasiment immédiatement.
De suite. Les enfants sont scolarisés à Pontac, sont en quatrième et en troisième, et l'aîné est à l'IUT à Tarbes, et la petite à maternelle. Donc ils ont été tout de suite très bien accueillis par les autres enfants dans les collèges où ils sont. Et voilà, ça, c'est, bon, c'est, l'apprentissage du français est difficile, mais bon, ils font.
Et aujourd'hui, que vous disent-ils ? Est-ce qu'ils vous disent, on sait qu'on restera en France pour la vie, ou est-ce qu'on a vraiment envie de revenir dans notre pays quand la guerre cessera ?
Les mères, elles, je pense qu'elles... valeur aujourd'hui et dans l'année qui vient ou par là, il y a pas de travail, donc c'est l'économie est vraiment très très malade. Donc elle pense pour le moment rester ici. Les gamins, eux, c'est différent. L'école, ça, eux, ils pensent qu'ils retourneront en Ukraine, donc ils font pas beaucoup d'efforts
pour s'intégrer et apprendre la langue.
Apprendre la langue. Surtout qu'ils se retrouvent à 4, donc à 2, il fallait qu'ils aient 2 classes différentes, etc. C'était un peu plus difficile, mais à 4, là, les récréations, ils se retrouvent tout de suite ensemble.
Et oui, donc ils parlent ukrainien.
Ils parlent ukrainien. Mais enfin, bon, je pense quand même, bon, si ça doit, ça va durer, sans doute, enfin, malheureusement. Et, parce que bon, ils ont un très bon niveau intellectuel, quoi. Ils sont musiciens, ils sont ils dessinent très bien, etc. Bon, ils ont 14 ans, 15 ans, donc il faut qu'ils intègrent le fait qu'ils risquent de rester quelques années ici.
Pas facile. Pas facile non plus d'établir un bilan humain certain, tant les belligérants ont tendance à minimiser leurs propres pertes et à exagérer celles de leurs adversaires. Le chef d'état-major de l'armée norvégienne estime néanmoins que les pertes russes pourraient dépasser les 180 000 morts et blessés. Et côté ukrainien, les pertes militaires s'élèveraient à plus de 100 000 hommes, sans compter les 40 000 civils. Les Ukrainiens accueillis dans les Hautes-Pyrénées ont certainement laissé de la famille là-bas. Quels sont les liens qu'ils entretiennent avec eux?
Mais ils font avec WhatsApp, avec Internet, ils sont en relation directe. Même moi-même, je suis en relation directe avec mes amis là-bas, puisque quand on prépare les envois, on essaye de coller à leurs demandes.
Oui, à leurs besoins.
Donc les communications, elles sont instantanées. Là, j'appelle Victor deux fois par jour si j'ai besoin.
Ah oui.
Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, les autres familles... Bon, à part les soldats qui sont au front, bon, les communications sont plus difficiles, mais elles sont assez régulières quand même, puisque bon, mes amis vont approvisionner leurs amis qu'ils ont au front à bon, la zone de Bogdanivka, Subotsy, où on est. Deux fois par semaine, ils vont à 30 km du front amener de la nourriture, amener des couvertures, des pansements, des médicaments, etc.
Et ça leur permet donc d'avoir des nouvelles du front, si on peut dire.
Voilà.
Quelles sont-elles, puisque elles sont déformées aussi. Il n'en parle pas.
Bon, quand je suis passé plusieurs... Bon, je suis allé 2 fois en Ukraine. J'ai essayé de regarder les cimetières, et bon, on voyait quelques tombes fraîches, mais... Bon, 100 000 personnes, ça fait beaucoup. Enfin, ou 150 000, ça fait beaucoup.
Ça vous paraît faux comme chiffre ?
100 000, ça serait plus juste, je pense. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est les Russes qui attaquent et les Ukrainiens qui défendent. Donc, dans une guerre, normalement, l'attaque perd plus de personnel que la défense. Quoi. Mmh.
Donc, vous êtes allé à Belcambios donc à plusieurs reprises en Ukraine et vous y êtes allé tout récemment. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez trouvé comme situation?
Mais le problème, c'est que la dernière fois que j'y suis allé, c'était quand les premières frappes russes sont tombées là au mois d'octobre, je crois que c'était. Et c'est une ambiance bizarre parce que la vie est tout à fait normale, quoi. On est passé à Kiev, on est allé à Kiev, et c'était le premier jour à Kiev où alors on me téléphonait en me disant attention, qu'est-ce qu'il paraît que les Russes bombardent. On est arrivé à 1h de l'après-midi à Kiev. On a entendu les sirènes une fois, et tout est calme. C'est une grande ville. Bon, c'est Kiev en superficie, c'est 4 fois Paris. Ah oui. Donc, on est passé dans les endroits Bouchka, Irpin, qui avaient été détruits par l'attaque russe du début d'avril, là, février-mars-avril. Là, c'est détruit. Bon, les gens ne sont pas revenus tellement c'est cassé. Mais à côté de ça, bon, ça circule. La vie est normale. La vie est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est... nous, on est allé que dans des villages. En ville, on a rencontré la responsable de la Croix-Rouge ukrainienne, parce que Lesia nous avait chargé d'amener quelques colis, mais bon, ça n'a rien à voir l'action de la Croix-Rouge à Kiev, où elle nous a parlé de 350 000 personnes qui devaient nourrir. Que nous, dans les petits villages, bon, c'est un village de 5 000 habitants, bon, il y a quand même 800 et quelques réfugiés ou par là. Bon, ça n'a rien à voir, quoi.
Dans les villages. Oui. L'actualité de ces dernières semaines a focalisé l'attention des médias vers la Syrie et la Turquie. Et pourtant, le conflit en Ukraine ne s'est pas arrêté. De quoi ont besoin précisément les Ukrainiens?
Aujourd'hui, les vêtements froids, bon, on fait partir un convoi de vêtements chauds. Mais aujourd'hui, c'est surtout de la nourriture. Ils ont besoin des boîtes de conserve, des produits d'hygiène, bon, sans parler des médicaments, etc. Ça, c'est le problème des médicaments, c'est les agences internationales, les grandes ONG nationales qui transfèrent ça. Mais ils ont besoin de nourriture, de draps aussi, de sacs de couchage, de batteries, de petites électro... de bricolage électroportatif, des perceuses, des visseuses, des trucs comme ça.
Pour pouvoir réparer un petit peu ce qui peut
voilà,
l'être.
Voilà, réparer, ouais. Bricoler, etc. Quoi. Mmh.
Merci beaucoup à Belcambios d'avoir pris le temps de nous donner des nouvelles du front, si je puis dire. Vous êtes fondateur de l'association Solidarité Adour-Pyrénées. Merci.
Voilà, nous avons un site internet aussi.
Allez-y, dites l'adresse.
ukraine.acs65.fr.
Merci beaucoup, Abel Combios. Voilà. Au revoir.
Merci. Au revoir. Bonne journée.